Le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM et de prendre part à ce tour d'horizon. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question de la validité des mariages religieux. Le sujet du jour est inspiré d'un article du journal Le Devoir, écrit par Guillaume Bourgault-Côté et intitulé « La brèche ouverte par Québec inquiète ». Le Devoir nous révèle que la position de la procureure générale déconcerte le milieu juridique et politique. Selon les informations diffusées par ce journal, un mariage religieux n'est pas nécessairement un mariage, mais parfois une union spirituelle sans conséquence, estime la ministre de la Justice Stéphanie Vallée. Une position qui déconcerte de juristes et opposition et qui inquiète grandement le Conseil du statut de la femme. Ce qui se passe ici, mesdames et messieurs, c'est assez déconcertant. Imaginez qu'un couple demande à leur pasteur de les marier et que ce dernier ne dispose pas d'un permis de célébrant. Évidemment, leur mariage n'est pas valide aux yeux de la loi. Mais ici, on va encore plus loin. On ouvre la porte à un pasteur qui a un droit légal de marier de ne pas envoyer la déclaration de mariage à l'État civil. Maintenant, imaginez qu'un couple vient voir le pasteur et lui dit ceci. « Monsieur le pasteur, on veut une cérémonie, une belle cérémonie religieuse, mais on ne veut pas que vous envoyiez les papiers à l'État civil. On veut juste faire une cérémonie, on veut juste s'unir devant témoins et après ça faire une fête, c'est tout. Mais on ne veut rien de légal. » Quelles sont les conséquences à ce moment-là? Ils disent s'être mariés devant Dieu et devant témoins, mais leur reconnaissance légale n'est pas enregistrée à ce moment-là. Poursuivons avec ce que nous dit Le Devoir à cet effet. La religion pourrait ainsi devenir un argument pour être marié sans être touché par le partage du patrimoine familial ou le versement d'une pension alimentaire à son ex-conjoint. Cette déclaration, mesdames et messieurs, a été lancée par la juge suite à ce qu'un homme se soit marié pour être en règle avec sa religion, mais qui ne voulait pas nécessairement s'engager pour la vie. Il s'est dit, « Ben moi, je me suis marié par contrainte religieuse. Donc, puisque c'est un mariage religieux, ça ne devrait pas avoir la même validité, puisque les non-croyants, eux, n'ont pas besoin de se marier pour être unis. » C'est un peu ça, sa logique. Mais écoutez bien ce que dit Le Devoir dans ce qui suit. Suivant l'argumentaire de Mme Vallée, on parle ici de la ministre de la Justice, là, les ministres du culte qui célèbrent un vrai mariage sont toujours obligés de transmettre la déclaration à l'État civil. Ceux qui ne transmettent pas les documents ne sont pas des ministres du culte au sens où le Code civil l'entend et ils ne célèbrent pas des mariages. « Je ne joue pas sur les mots », a affirmé Mme Vallée. Ouais, la ministre ne joue peut-être pas sur les mots, mais elle ne lance pas des signaux rassurants. On est marié ou on ne l'est pas, point. Le problème est le suivant. Selon cet article du Devoir, si la Cour d'appel confirme ce jugement, on viendrait créer une jurisprudence qui va instaurer une nouvelle catégorie d'état matrimonial, dit Stéphane Bolac. Les gens mariés religieusement, mais sans conséquences civiles. Or, au Québec, mariage a toujours voulu dire protection par le droit. Mesdames et messieurs, ça pourrait vouloir dire qu'un homme, par exemple, pourrait se marier à l'Église et ensuite laisser sa première épouse et dire, ben là, non, ça ne marche plus, c'est fini. Rencontrer une autre femme et là, la marier légalement. Il pourrait tout simplement laisser sa première femme, puisque au nom qu'il s'est marié religieusement et que les papiers n'ont pas été envoyés, eh bien, à ce moment-là, c'est pas reconnu officiellement comme un mariage. C'est comme si on veut qu'il soit reconnu socialement, mais pas légalement. Cette confusion inquiète Julie Miville-Dechêne, présidente du Conseil du statut de la femme. Voici ses propos qui ont été rapportés dans cet article de Guillaume Bourgault-Côté. Il y a toujours un automatisme selon lequel un mariage religieux était l'équivalent d'un mariage civil et que les couples étaient automatiquement soumis aux mêmes règles, rappelle-t-elle. S'il n'y a pas d'enregistrement et donc pas de protection, on peut penser que c'est la partie la plus vulnérable qui en payera le prix. Effectivement, et quand on pense à la partie la plus vulnérable, dans la plupart des cas, eh bien, ce sont les femmes. Ce sont les femmes qui vont payer le prix d'un désengagement ou d'un manque d'engagement officiel. Dans un autre article du même auteur, intitulé « La validité d'un mariage religieux existant est remis en question par les tribunaux », Guillaume Bourgault-Côté nous rapporte ceci. « Le juge Allary note bien que l'article 118 du Code civil indique que la déclaration de mariage est faite sans délai au directeur de l'État civil par celui qui célèbre le mariage. Mais de l'avis du tribunal, le Code habilite sans obliger les ministres du culte à célébrer des unions qui sont à la fois religieuses et civiles. Résultat, il serait donc possible d'être marié religieusement avec une personne qui demeurerait un simple conjoint de fait aux yeux de l'État civil. C'est tout un problème, ça, mesdames et messieurs. Mais tout ceci démontre une chose. C'est que nous vivons à une époque où l'on enlève nos points de repère sociaux. Puisque l'engagement n'est plus une valeur intemporelle, on peut faire ce qu'on veut du mariage. Le mariage n'a plus aucun sens. Le sens du mariage, c'est un engagement, une union pour la vie. Je m'engage, pour le meilleur et pour le pire, dans la santé comme dans la maladie, dans la prospérité comme dans la détresse, d'être avec toi jusqu'à la fin. Dans ce cas-ci, si cette conclusion prend de la vigueur, on pourrait voir des couples demander aux célébrants de les marier sans s'engager légalement de leur part. Maintenant, est-ce que ça concerne énormément de gens? J'aimerais savoir avec vous quelques statistiques que j'ai trouvées justement sur le site de l'Institut de la statistique du Québec en ce qui concerne les mariages. Il y a plusieurs aspects intéressants à voir là-dessus. Et la première plateforme sur le site de la statistique, parce qu'il y a différentes plateformes, on voit ici, cette plateforme s'intitule « Les mariages au Québec en 2014 » par Anne Binette Charbonneau. On voit sur cette première plateforme une baisse des mariages religieux. Voici ce qu'on en dit. La part des mariages religieux, c'est-à-dire célébrés par un ministre du culte, poursuit sa baisse au profit des mariages civils. En 2014, elle s'établit à 45% chez les conjoints de sexe opposé. Cette part s'est réduite de 25 points de pourcentage depuis 2002, soit depuis l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi qui habilite de nouveaux célébrants pour les mariages civils. En plus des greffiers des palais de justice, on trouve désormais parmi les célébrants des notaires et des personnes désignées par le ministre de la Justice du Québec. Les personnes désignées peuvent être un maire ou un fonctionnaire municipal, mais aussi un ami ou un membre de la famille du couple. Donc, si vous avez un ami qui est précieux pour vous, vous pouvez lui demander d'aller chercher, justement, une licence ou un permis de célébrant. Normalement, c'est un permis qui dure 24 heures et il peut vous marier officiellement. L'autorisation des mariages civils à la fin des années 60 avait entraîné un premier mouvement à la baisse des mariages religieux. Mais leur part s'était stabilisée autour de 70% dans la décennie 90. Mais là, c'est passé de 70 à 45%. C'est quand même un pas vers le bas, c'est une baisse significative. Mais qu'est-ce qu'on peut constater de 2002 à 2014? On constate que ce ne sont pas seulement les cérémonies religieuses qui sont en baisse depuis que de nouveaux célébrants ont été habilités à célébrer des mariages civils. En effet, les mariages officialisés par un greffier au palais de justice sont eux aussi de moins en moins populaires, leur part étant passée de 29 % en 2002 à 17 % en 2014. C'est quand même une baisse significative, ça aussi. À l'inverse, les mariages célébrés par une personne désignée sont en hausse et surpassent depuis 2012 ceux célébrés par un greffier. Ils représentent près du quart des mariages en 2014, soit 23 %. La part des mariages contractés devant un notaire s'établit, elle, à 14 %. Elle aussi est en progression, quoique celle-ci moins rapide. Donc, c'est intéressant. C'est sûr que si vous avez le choix d'être marié par quelqu'un que vous ne connaissez pas ou quelqu'un de proche que vous aimez, avec lequel vous avez partagé, par exemple, des liens d'amitié, des liens fraternels ou des liens familiaux, eh bien, à ce moment-là, c'est beaucoup plus plaisant, c'est beaucoup plus enrichissant. Si vous êtes marié par quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui prend simplement des notes quelques jours avant sur qui vous êtes, c'est pas pareil que quelqu'un qui peut raconter des anecdotes, qui est touché par votre union parce qu'il vous connaît, parce qu'il vous aime. Et c'est fort probablement pour ça qu'on choisit de plus en plus des gens désignés, au lieu de choisir une personne qui a un titre officiel sur le plan civil, par exemple. Ce qu'on nous dit également, c'est que le choix du célébrant est bien différent dans les cas de mariage de conjoints de même sexe. La plupart des mariages religieux est notamment beaucoup plus réduite en raison des normes qui régissent le mariage dans certaines religions. En 2014, 15% des mariages homosexuels ont été célébrés par un ministre du culte. Je croyais que le pourcentage allait être beaucoup moins élevé, mais 15% des mariages homosexuels ont été célébrés par un ministre du culte. Pour moi, je trouve ça que c'est considérable. Ce qui arrive, c'est que le mariage est de moins en moins populaire que dans les dernières années. Donc, on voit que selon les données provisoires, 22 410 mariages ont été célébrés au Québec en 2014. Ce nombre est légèrement plus faible qu'au cours des 4 années précédentes, alors qu'il s'était maintenu entre 29 900 et 23 500. Il demeure néanmoins un peu au-dessus de ce qu'il a été durant la première décennie des années 2000, alors qu'il était environ de 22 000 mariages. En 2014, 77% des mariages ont été célébrés un samedi. Par ailleurs, 6 mariages sur 10 ont eu lieu durant les mois de juin à septembre. 60% ont lieu, si on veut, l'été. Mais si on regarde plus en détail le choix de la date, savez-vous quoi? La moitié des couples s'étant mariés en 2014 l'ont fait un samedi d'été. Et savez-vous quelle est la date la plus populaire en 2014? Eh bien, c'était le 16 août. Un autre point que j'aimerais soulever, c'est que les gens se marient moins jeunes. La diminution des taux de primo-nuptialité chez les jeunes dans la vingtaine, hommes et femmes, est particulièrement marquée entre 1984 et 2014. C'est quoi ça, la primo-nuptialité? Eh bien, ça veut dire que c'est une première noce, tout simplement. C'est un mot savant pour dire première noce. Mais ce qu'on va dire ici, c'est qu'au contraire, le taux de nuptialité chez les 30 ans et plus connaît une légère évolution à la hausse, indiquant un certain rattrapage des mariages à des âges plus avancés. Donc, avant, on se mariait plus jeune, maintenant, on se marie moins jeune. Ce rattrapage est toutefois nettement insuffisant pour compenser les mariages qui ne se font plus chez les plus jeunes, d'où une nuptialité totale qui reste faible. En 2014, c'est à 28 ans que les premiers mariages sont les plus fréquents chez les hommes. Chez les femmes, les taux culminent à 22 pour 1000 à l'âge de 26 ans. Le contraste est marqué avec la situation observée en 1984. À cette époque, la nuptialité atteignait un sommet plus tôt et ce sommet était beaucoup plus élevé. À 25 ans, 50 % des hommes et 70 % des femmes nées en 1945-1946 étaient mariés. Chez les hommes et les femmes nés 20 ans plus tard, en 1965-1966, cette proportion n'était plus que de 14 et 28 respectivement. La baisse s'est poursuivie chez les générations nées dans les années 70 et encore un peu chez celles nées au cours de la décennie 80. À peine 3 % des hommes et 5 % des femmes de la génération 89-90 sont mariés à 25 ans. En terminant, qu'en est-il des remariages? Ce qui est étonnant, c'est que selon l'Institut de la statistique du Québec, seulement le quart des divorcés vont se remarier. Par conséquent, la part des divorcés parmi l'ensemble des personnes qui se marient est devenue non négligeable. En 2011, les divorcés représentent 24 % des hommes et 21 % des femmes qui se sont mariés avec un conjoint de sexe opposé. Maintenant, qu'est-ce que ça nous dit, ça, mesdames et messieurs? Lorsque les célébrants ne seront plus tenus d'envoyer la déclaration de mariage, est-ce que le nombre de remariages chez les divorcés va augmenter? En d'autres mots, si les gens vont avoir la possibilité de s'unir, de faire une cérémonie officielle publiquement, mais non officielle sur le plan légal, est-ce que ça va amener plus de divorces et donc plus de remariages? Est-ce que c'est après un troisième mariage que là on va se dire « OK, là, c'est le vrai mariage. Là, c'est l'officiel. Là, c'est le légal. » Mais qu'est-ce qui va arriver s'il y a des enfants impliqués? Par exemple, Jean s'unit avec Thérèse. On célèbre un mariage. Ils ont des enfants. Ils se séparent. Mais là, à ce moment-là, ce n'est pas une union officielle sur le plan légal. Jean-Louis se marie avec Gertrude, mais là, c'est un mariage officiel. Quelle confusion ça va être si on poursuit cette direction-là. Je ne sais pas pour vous, mais s'il n'en tenait qu'à moi, j'enlèverais les permis de célébrant à ceux qui ne consentent pas envoyer la déclaration de mariage. En d'autres mots, si on est un célébrant officiel et quelqu'un veut nous voir pour qu'on célèbre le mariage, eh bien, on doit le faire de A à Z. Pas un mariage qui est fait publiquement, mais qui n'a aucune répercussion sur le plan légal, sur le plan juridique, sur le plan de l'engagement. Le mariage est un engagement trop important pour que cette union ne soit pas protégée par un acte légal. Maintenant, puisque l'émission tire à sa fin, si vous désirez poursuivre la discussion, je vous invite à m'écrire à l'adresse suivante. C'est leblogueur@commercialericlantier.net. C'est leblogueur@commercialericlantier.net. Je vous invite également à être des nôtres du lundi au vendredi à 8h05 et à 20h05 pour parcourir votre tour d'horizon. N'oubliez pas que cette émission est disponible en tout temps sur le www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir syntonisé le 92,7 FM et je vous dis à demain.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le Tour d'Horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. leblogueur@commercialericlantier.net. Le Tour d'Horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre Tour d'Horizon. Au revoir!